Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Parce que j'ai réalisé un truc, je dis à Léa, bébé, là, notre fils, il est plus proche de sa rentrée de 6e au collège que de sa naissance. Et genre, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais non, n'importe quoi. Et je dis, bah, calcule. Et en fait, c'est le cas, tu vois. Et là, vraiment, c'était vertigineux pour moi. Je sais pas pourquoi, ça m'a...
Et donc, ouais, le collège, il y a un vrai truc de, ok, bah, c'est un grand maintenant, quoi.
Ouais, tu vois, genre, vraiment, il est plus près d'être collégien que de ce petit truc que j'avais encore dans les mains, j'ai l'impression, il y a genre une semaine, tu vois. Donc ça m'a vraiment mindfuck et je trouve qu'il grandit, tu vois. Et là, en plus, tu vois, ces trois premières années, il parlait pas beaucoup. Il a mis du temps à développer le langage parce qu'il était beaucoup plus moteur. Et maintenant, c'est genre vraiment, on parle H24 et c'est un petit gars qui est hyper curieux, qui est hyper intéressant. Et donc moi, je passe mon temps à lui parler. Et du coup, c'est un peu interpellant pour les autres parce que des fois, ils ont l'impression qu'on est plus potes que papa et enfant, tu vois.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors, je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Samuel,
ça va, mon
nous
fab.
Sommes de retour.
C'est le comeback.
C'est le comeback. Écoute, je sais pas, t'as fait à peu près tous mes podcasts. Après, il va te manquer Histoire d'argent, je crois.
Je pense qu'à un moment, je vais commencer à les compter et me dire lesquels j'ai pas fait, surtout.
Ouais. Et là, t'es de retour pour la troisième fois donc, dans Histoire de Daron.
Bah ouais.
Parce que c'est un peu... Donc t'es passé pour... J'ai réécouté cet épisode qui date de 2019 où t'étais encore un bébé.
Putain, bah clairement, ouais. J'avais...
T'étais un homme fort.
J'avais quel âge?
Bah 20.
19 ans.
Bah, je sais pas,
si, 19 ans.
Ah ouais? Ouais.
Ouais. Non?
Je sais pas.
Ah non, pas du tout.
Non, t'avais 22.
20...
C'est ça, non?
Le gars est très chaud en maths.
Je crois que j'avais en tête 22.
Non, mais... 22, c'est ça, c'est ça.
Et tu venais d'avoir Gaspard.
Ouais.
Qui était encore tout petit.
Ouais, il avait genre un an pour le coup, lui.
Exactement. Et donc, tu m'avais appris plein de choses. C'était incroyable cet épisode. J'en ai vraiment un super souvenir. J'étais allé à Montpellier.
Ouais, je me rappelle que
tout,
t'étais
trop
venu
bien.
Et tout. T'avais même visité les bureaux de Léa.
Oui, effectivement. Et nous voici 5 ans plus tard.
Ouais, 5 ans plus tard, déjà.
Ton enfant est désormais un adolescent, voilà.
Bah, clairement, là, il va passer le permis la semaine prochaine.
C'est sûr. Et toi, tu fumes des guinzes maintenant et t'es en dépression parce que t'es comme...
Non, j'irai pas jusque-là. Non, mais c'est vrai que je commence à me dire, waouh, ça passe très, très vite.
Et tu sors ce bouquin, donc, chez Hachette.
Chez Hachette, pratique, ouais.
Qui s'intitule « Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie ?» D'étudiant en médecine à père au foyer, Samuel nous partage son parcours et ses questionnements sur la parentalité et sa société.
Ouais.
Et la société.
Et la société.
Ouais, c'est pas ta société.
C'est pas encore ma société.
Ça viendra.
Samuel Président. C'est intéressant parce que ça fait déjà un moment, en fait, en vrai, que j'ai envie de t'avoir pour un épisode 2 parce que la situation a vachement changé.
Bah, de ouf.
Depuis 2019.
De ouf.
Vous êtes passé, j'ai l'impression, Léa et toi, donc ta femme Léa, par plein d'étapes avant d'en être là aujourd'hui. Et je me demandais un peu pourquoi tu avais eu envie de venir poser ce livre, finalement. Est-ce que c'est un peu un bilan, finalement, de tes années de papa au foyer? Parce que cette période est un peu révolue, en fait,
ça,
aujourd'hui.
C'est ça. En fait, vraiment, tu vois, genre, j'ai passé 3 ans 100% avec Gaspard, mon fils. Quand toi, t'es venu, c'était la première année, c'était vraiment le début. Et vraiment, bah, à ce moment-là, pendant 3 ans, on était à 100% ensemble, tout le temps. Et moi, je faisais rien d'autre. Vers la troisième année de cette phase-là, j'ai commencé à lancer mon compte Insta, parler un peu sur les réseaux de ce que c'était le quotidien d'un père au foyer et tout. Ça a bien marché. Et ensuite, il est rentré à l'école. Et là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu continues sur ce lancer, tu vas à fond sur les réseaux. Et là, je suis vraiment, pour moi, je suis plus père au foyer, tu vois. Enfin, je suis daron impliqué et à côté qui essaye de taffer au mieux avec toutes les tâches qu'il a à faire à la maison, à gérer en plus. Et c'est vrai que bah, quand à mon éditrice m'a contacté en me disant bah, « Nous, on adore ce que tu fais et tout, et on serait intéressé par un projet si tu as quelque chose que tu as envie de faire bah, », je me suis dit « Vas-y, j'ai vraiment pas envie de faire un truc genre en mode « Comment être un bon parent ?» ou « Guide du super parent » et tout, parce que ça me correspond pas. Puis en fait, je pense que j'ai pas les compétences pour dire aux autres comment être parent. Tu vois. Par contre, je me suis dit « Bah vas-y, moi j'ai vécu un truc qui est un peu particulier, et si déjà peut-être pour moi aussi, je le pose tu vois sur le papier, sur le clavier d'ordi, pour être honnête. ça va peut-être m'aider, tu vois, à avoir un peu clair dans ce que ça a été, ce qu'ont été ces années-là pour moi. Et puis, ça va peut-être aider d'autres personnes qui sont un peu du père et qui savent pas trop comment se positionner, où s'impliquer. Et j'en profite pour, tu vois, extrapoler sur des réflexions un peu plus globales, tu vois, sur ce que je pense que devrait être l'éducation, la société, tout ça, quoi.
Ok. Alors, je vais être très honnête avec les gens qui écoutent et avec toi, tu le sais aussi. Mais
moi, je sais déjà.
On fait cette interview complètement à l'arrache. J'ai pas lu ton bouquin, ce qui m'arrive globalement jamais, parce que d'habitude, je lis les ouvrages des gens que je veux interviewer. Donc, en revanche, j'ai plein de questions à te poser. Mais si tu as envie de rebondir à un moment donné sur ce que tu racontes dans le bouquin, n'hésite pas. Même si je vois à peu près de quoi tu vas parler, puisque c'est des sujets dont on a déjà parlé, toi et moi.
Voilà, on se connaît.
J'imagine que tu n'as pas non plus réinventé totalement, ou alors tu as.
Non. Ou alors tu vas être hyper étonné, tu vas être mais quel mytho. Tu vas enregistrer l'épisode et puis après tu vas dire waouh.
Mytho total.
Ça risque pas, je pense.
J'aimerais bien, parce que j'ai réécouté l'épisode qu'on a enregistré en 2019 et en fait je crois que en fait j'aimerais bien que tu m'expliques et que tu fasses peut-être un peu un bilan de l'idée que t'en avais à l'époque par rapport à la réalité que tu as pu vivre, toi, au quotidien. Comme tu dis, d'être pendant 3 ans à 100% à plein temps avec ton enfant, quoi.
Ouais, alors tu vois, ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et pour le coup, bah, ça, tu vas voir dans le livre, je le développe de ouf. Et quand j'ai décidé de faire ça, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça l'a été. Mais genre sur tous les plans. C'est-à-dire que j'avais...
C'est un peu le 101 de la parentalité,
en fait. Ouais,
je crois que tu t'imagines pas...
De toute façon,
le
quoi que tu fasses,
dans lequel tu vas.
Quelle que soit la posture que tu choisis d'adopter, quelles que soient les possibilités de disponibilité que tu as, tu t'attends pas à ce qui va se passer. Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment en mode imaginé que, bah, tu vois, ça allait être assez facile parce que justement, j'allais être dispo, j'allais être tout le temps là, donc on allait pouvoir prendre le temps et tout. Et au final, c'est vrai que c'est un rythme qui est mais hyper intense. Et ça, j'avais pas du tout prévu ça. Ça m'a allé pendant un temps parce que bah, moi, je suis quelqu'un d'assez speed et j'aime bien faire des trucs. Donc, sortir tous les jours, faire des activités tous les jours, aller visiter des trucs tous les jours pendant 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, ça m'a bien allé. Voyager, tu vois, j'ai fait une formation Montessori 0-3 ans, tu sais, un peu avant la naissance de Gaspard pour me rassurer, tu vois, pour apprendre bien les trucs et tout. Ça m'a pas servi de ouf, mais j'avais fait une salle un peu Montessori avec Gaspard et du coup, ça marchait bien. Mais c'est vrai que rétrospectivement, tu vois, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à me dire, ouais, déjà mentalement, je suis un peu fatigué. Je pense que c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et puis en plus de ça, je pense qu'il y avait un manque un peu de lien social avec des gens de mon âge. Tu vois. Alors franchement...
Oui, avec des adultes, tu veux dire?
Bah, ouais, puis en plus avec... Oh non, pas vraiment avec des adultes, avec vraiment des gens de mon âge. C'est-à-dire que
oui, c'est vrai
moi,
que...
Gaspard, à 3 ans, j'avais 23 ans, moi 24 ans.
Tu es un enfant encore.
C'est ça. Et tu vois, quand tu vas faire des sorties avec des gens que tu trouves sur les groupes des parents, les parents de Montpellier, tu vois, ou les trucs comme ça, c'est super parce que tu as quand même du lien et les enfants peuvent créer du lien. Mais moi, quand t'as 24 ans, que les gens, ils ont genre 10, 15 ans de plus que toi, on n'a pas les mêmes enjeux, tu vois, on n'a pas les mêmes visions de plein de choses.
Oui.
Et des fois, je suis un peu là en mode, putain, j'aimerais bien déconner avec des potes sur la dernière série qui est sortie, tu vois, et pas parler de trucs un peu plus sérieux des fois, tu vois, enfin des trucs de daronnerie, quoi, tu vois.
C'est trop marrant parce qu'on en parlait justement dans mon Discord, tu sais, j'ai un serveur Discord où on parle de parentalité
bien
et
sûr.
Tout, et c'est très drôle parce qu'il y a une de mes auditrices qui me racontait, elle, le souvenir qu'elle avait de galères de parents d'élèves.
Donc
il faut gérer, même quand tes enfants sont à l'école, il faut gérer la relation avec les autres parents.
Ouais,
et c'est vrai que ça, c'est un truc auquel tu penses pas, en fait, avant de faire des enfants. Tu te dis, putain, ouais, c'est un autre délire.
C'est
quoi.
Ça. Et tu vois, là, maintenant que Gaspard, il est à l'école, donc ça fait, là, c'est sa troisième rentrée.
Ouais.
Je le vois de ouf. Parce qu'en plus, c'est là où il y a une diff de ouf entre Léa et moi. Je dirais Léa, elle est un petit peu plus sauvage, indépendante, tu vois. Et moi, je suis vraiment, on appelle ça, elle m'a dit que ça avait un nom sur TikTok, le Golden Retriever Husband, tu vois.
Donc, t'as un chien.
Non, mais si tu vois ce que c'est un Golden Retriever, c'est, tu sais, le gars qui est toujours content, qui est toujours, tu vois, toujours sociable et tout. Elle me dit, toi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les gens, naturellement, genre, à l'école, je vais chercher mon fils et tout, je suis obligé de discuter avec les gens et tout. Ce que je trouve cool. Mais ce qui est un peu demandant
t'es
en énergie,
obligé.
Tu vois.
Bah, tu te sens obligé.
Tu te sens obligé, tu vois. Enfin,
non,
mais d'accord,
oui.
Mais enfin, des fois, tu vas juste chercher ton gosse, tu te casses. Mais
oui.
Moi, j'ai ce truc où je suis content de montrer que, bah, tu vois, on peut discuter et tout, machin, c'est cool, on va au parc, on discute et tout. Je suis capable de, tu vois, passer des bons moments avec des gens, alors que, bah, en vrai, on n'est pas potes dans la vraie vie, tu vois. On s'entend super bien par le prisme de l'école, mais on n'est pas potes dans la vraie vie. Et ces potes-là, à un moment, ça manque, tu vois. Et c'est ça qui m'a, je pense, le plus manqué pendant 3 ans. Et heureusement qu'on a une super relation avec Léa parce que bah, c'est un peu ma pote aussi, donc je me retrouve un peu là-dedans, mais c'est quand même différent, tu vois.
Mais t'avais pas des amis ?
Mais si.
Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que de ce fait-là, la paternité t'a un peu éloigné ?
Oui,
d'eux,
c'est ça. C'est que j'avais un groupe d'amis et tout. Alors, il s'avère qu'en plus, c'était un groupe d'amis qui était assez lié au rugby, tu vois. Et vu que j'ai arrêté le rugby pendant une période parce que, bah, comme un couillon, je me suis blessé, genre hyper gravement, je t'avais raconté ça. Petite perforation du poumon, c'était nickel.
Après, t'as choisi un sport tout à fait doux.
Bah ouais, c'est ça. Mais j'aurais dû y penser plus tôt. Donc, si tu veux, il y a plein de facteurs qui ont fait qu'on s'est un peu éloigné. Et franchement, quand t'as passé la semaine avec ton gosse, tu vois, c'est hyper cool. Tu es dans le kiff total, tu aimes et tout. Mais le vendredi soir, t'as pas envie d'aller te mettre une mine à 45 minutes de bagnole parce que t'habites dans un petit village et que tes potes sont en ville à faire la soirée étudiante de l'année, tu vois. Donc, moi, j'étais plus même dans ce mood-là, tu vois.
Ouais.
Donc, petit à petit, tu vois, là, depuis que Gaspard est à l'école, j'ai retrouvé ce truc-là. Je me suis autorisé aussi peut-être un peu parce que je pense qu'il y avait une partie de moi où j'étais un peu en mode bah non, tu sais, toi tu dois vraiment être disponible pour ton fils, donc
est-ce que il y avait un peu le truc du père parfait?
Ouais, j'avais vraiment envie d'être, tu vois, en fait dans ma tête je me disais bah tu peux pas sortir parce que genre sinon demain tu vas être fatigué et du coup tu seras moins présent pour ton fils, tu vois. Il y avait vraiment ce truc là un peu de pression, d'auto-censure aussi.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et là, depuis qu'il est à l'école et tout, je me dis, je peux plus m'autoriser ça, tu vois. Donc, c'est vrai que rétrospectivement, je pense que ces 3 années vraiment père au foyer, j'aurais peut-être bénéficié à être un peu plus sur la détente, tu vois. Et me dire, ok, tu peux aussi t'autoriser de dire, bah, demain matin, je m'occupe pas de gaffe, tu vois.
Est-ce qu'il y avait une sorte de pression de... Finalement, c'était un peu la mission que tu t'étais octroyée.
C'est ça.
Et que, limite, cette mission était plus grande que toi.
Ouais, mais en plus, tu sais, j'avais vraiment ce truc. Et ça, je l'ai compris que vachement récemment. Je pense peut-être même en écrivant le livre, tu vois. Où je me suis dit, en fait, c'est tellement un choix particulier de devenir père au foyer. Et c'est tellement jugé. Même si les gens n'ont pas été, dans mon entourage proche, très méchants avec moi ou quoi du tout, tu vois. Mais je sentais qu'il y avait un jugement, tu vois. Je sentais qu'il y avait un truc en mode, c'est pas ta place, tu devrais pas faire ça. Et en fait, j'avais tellement envie de prouver que ce choix était judicieux que je me suis dit, tu ne peux pas faire autre chose que quelque chose de parfait.
Tu le fais au top.
Sinon, les gens, ils vont te dire, bah, tu vois, je t'avais bien dit hein, que c'était pas ta place. Et ça, pour moi, c'était inacceptable.
Ah ouais, c'est terrible en plus, parce que de ce fait, tu pouvais pas venir te plaindre, entre guillemets, bah, des trucs qui c'est te ça. Convenaient moins, quoi.
C'est-à-dire que je pouvais pas aller voir des gens en disant, enfin, franchement, là, mentalement, genre, je suis au bout. Je suis vraiment, tu vois, je me demande ce que je vais faire de ma journée. J'ai zéro énergie. Non, tu vois, parce que vraiment, j'avais pas envie de montrer ce côté-là, tu vois.
Ouais.
Et dans le livre, je le raconte et c'est vraiment un truc, genre, c'est ok de dire je suis fatigué. C'est ok de dire là, j'ai besoin de ressources. Là, j'ai besoin de détendre un peu, tu vois. J'ai besoin de temps sans mon enfant aussi, tu vois. Ça, j'ai mis 4 ans à l'accepter de le dire, tu vois.
Ah ouais?
Bah ouais. J'ai mis 4 ans à pouvoir dire à Léa, écoute, là, je crois que j'ai besoin de...
J'ai juste envie d'être un mec.
J'ai juste envie d'être un gars tranquille qui veut aller passer une soirée et tout. Et c'est difficile à accepter quand tu te mets autant d'attentes toi-même, tu vois. Et heureusement que du coup, bah, j'ai une partenaire qui est vraiment à l'écoute de ça et qui est attentive à ça, tu vois. Et qui me dit, bah oui, évidemment. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Parce que je m'auto-censure et parce que voilà, j'avais vraiment cette volonté-là, quoi.
Parce que t'as eu aussi un discours militant, tu vois, sur les réseaux. T'avais aussi une posture, je trouve, qui était vraiment très revendicatrice, ok, en fait, je suis comme ça. Et je comprends pourquoi tu l'as fait, parce que comme tu dis, c'était tellement un truc un peu nouveau que c'était cool aussi de venir raconter. Mais finalement... Bah, tu sais, parfois, on entend des militants dire qu'ils ont vécu une sorte de burn-out militant, tu vois?
Ouais, bah après, moi, tu vois, c'était pas jusque-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'à un moment, je me suis dit, ouais, tu représentes un truc que tu peux pas te permettre de décevoir, tu vois? Tu peux pas décevoir la cause, quoi, un peu. Et pour moi, bah, c'était la cause à la fois d'inclure les hommes dans la parentalité, mais aussi la cause de juste respecter les enfants dans l'éducation, tu vois? Et de dire, bah, tu vois, moi, ça m'a mis, par exemple, depuis que j'ai créé mon compte Insta, c'était... Il y a 4 ans maintenant, je pense. Et je pense que ça m'a pris bien 2 ans à dire face cam dans des réels, dans des stories. Bah, vous savez, moi aussi, je crie sur mon fils des fois, tu vois. Moi aussi, je m'énerve. Moi aussi, je perds patience. Ça m'a pris 2 ans, tu vois. Parce qu'avant, je voulais absolument pas. C'était pas pour le cacher, mais je voulais pas en parler, tu vois. Je disais pas ça m'arrive jamais, mais je disais pas ça m'arrive non plus, tu vois.
T'avais peur de ce que ça pouvait générer comme réponse, c'est ça?
En fait, j'avais peur que ça desserve l'idéal que moi, j'essayais... Tu vois, même pas d'atteindre, mais en tout cas, cette posture-là du parent bienveillant et de l'homme impliqué, j'avais peur qu'en disant, bah, j'ai des failles et j'ai des galères, les gens se disent, bah, ça va, c'est même pas à peine d'essayer, tu vois. Enfin, ça marche pas, c'est évident, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Au contraire, depuis que j'en parle, mais les gens sont là en mode, mais putain, ça fait du bien, quoi.
Bah oui.
Parce qu'en fait, on galère tous et je crois que le mot galère est écrit dans le bouquin peut-être 500 fois, tu vois. Parce qu'en fait, bah, la parentalité, c'est une galère. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de joie, mais c'est une galère de chaque instant aussi. Et de le dire, ça fait vachement du bien. Et tu vois, là, c'est assez récent que j'en parle ouvertement et tout, parce qu'à un moment, j'étais vraiment dans ce truc de non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'au moment où, tu sais, tu te lèves le matin, t'as envie de dire, bah non, je vais me recoucher, laissez-moi, tu vois. Donc, ouais, clairement.
Alors, c'est marrant parce que moi, je saoulais les gens à l'opposé, c'est-à-dire quand mes filles étaient en bas âge, je trouvais que c'était tellement un raz-de-marée incroyable qu'en fait, je disais à tous les gens qui n'avaient pas d'enfants, réfléchissez bien, en fait. Je crois même que j'ai pu avoir une période où je disais, vous vous rendez pas compte.
Ce qui est compréhensible parce que c'est vraiment un raz-de-marée de ouf, tu vois.
Et je crois que j'avais des amis qui me disaient, en fait, tu nous casses les couilles. Donc après, je me suis calmé.
Ouais, bah, en vrai, je comprends parce que ça peut être un peu en mode, bah, frère, nous, on a envie d'avoir des enfants, laisse-nous.
Laisse-nous faire notre propre. Aujourd'hui, je laisse les gens faire leur propre expérience.
Bah ouais, voilà, c'est ça.
Après tout,
c'est...
Vous allez voir, c'est un ride. C'est tout ce que je dis.
Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. C'est comme ça.
Ok. C'est intéressant aussi parce que j'ai un peu l'impression que de ce fait, tu te marchais un peu dessus.
Ouais, bah oui, c'est ça.
Ça venait affecter comment dire, le lien que tu pouvais avoir avec Gaspard. Est-ce que de ce fait-là, t'avais aussi un truc de venir tout faire parfaitement alors que parfois t'étais juste gonflé et que tu venais finalement marcher dessus, quoi, au bout d'un moment.
Je pense qu'il y a un moment où, franchement, moi j'ai vraiment kiffé passer des moments avec lui et tout, et vraiment je faisais vraiment hyper attention à pas laisser transparaître ça, et je pense que ça c'était une erreur. C'est-à-dire que je pense là aujourd'hui, tu vois, des fois je lui dis, attends, là vraiment, genre, je suis fatigué, je peux pas, je suis pas dispo, va jouer tout seul, tu vois. Des trucs que, bon, après, il est plus grand, donc il est plus en capacité de l'entendre, mais je pense qu'il aurait pu l'entendre plus tôt aussi. Et
ça pose des limites, c'est
ça,
cool.
Ouais, puis tu vois, ça montre qu'on a tous, tu vois, des moments où on a besoin. Et lui, tu vois, bah, peut-être qu'un jour, il va me dire, bah, j'ai besoin de me poser aussi, tu vois. Et j'aimerais bien, parce que...
Ouais.
et tu vois, à cette époque-là, j'étais
ça
vraiment...
Ça viendra à l'adolescence, il va plus te calculer.
Ah oui, je me doute. Mais déjà, là, maintenant, il a ses petits quotidiens, ses bouquins. Mmh. Il me dit, tu peux sortir, je lis. Écoute, vas-y, fais-toi plaisir.
Non, mais tu... Je joue à Call of. Salut.
Bah, clairement, ouais. et tu vois, à cette époque, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais vraiment en mode, il faut que du lever au coucher, je sois dispo pour lui. Mmh. Et c'est vrai que c'est hyper exigeant et c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, bah, au fur et à mesure des semaines, des mois, tu te fatigues et ça demande des réajustements. Moi, je pense que j'ai réussi à réajuster, tu vois, mais à l'époque, j'étais vraiment dans un truc un peu pas sacrificiel, mais presque, tu vois, de truc de dire moi, ça passe dans un second plan, tu vois. Ce qui compte, c'est...
Pourquoi tu n'utilises pas le terme sacrificiel ?
Parce que c'est un côté un peu liturgique que j'aime pas, tu vois, mais... Okay. Non, mais en vrai, c'était un peu ça, tu vois. C'était du don de soi, mais à un point où... Bah,
finis
moi,
par
tu
te
vois,
marcher dessus.
Ouais, c'est ça, tu finis par te dire, bah, vas-y, ce soir, je vais avoir 20 minutes pour moi, et je vais m'endormir, tu vois. Mmh. Je vais pas me regarder une série qui me fait plaisir, je vais pas jouer, je vais pas machin, je suis éclaté, je vais
juste
m'endormir.
Je crois qu'on peut appeler ça du sacrifice, hein. C'est
ouais,
pas...
ouais, non, mais oui, dans l'idée, c'est clairement ça, tu vois. Et en fait, c'est ni sain pour ton enfant, je pense, mmh. parce que lui, c'est une image qui est erronée de son parent qu'il a, tu vois. C'est une image qui est biaisée. Et c'est ni sain pour toi parce que bah, tu laisses ta santé mentale, tu vois. Alors moi, j'en parle, tu vois, ouvertement depuis quelques temps. J'ai traversé un moment où j'étais en dépression. Et je pense que ça a beaucoup influé là-dessus. Je pense qu'il y avait un fond aussi depuis médecine et depuis un burn-out étudiant qui était clairement... Enfin, tu vois, rétrospectivement, c'était clairement ça qui s'est passé. L'arrivée de Gaspard a été, tu vois, un peu réconfortante et machin. Et puis après, cette accumulation de fatigue, de stress, de machin, de pression... Et bah tu vois bon ça s'est très vite réglé hein franchement c'était vite fait bien fait mais non mais
c'était vite fait bien fait ma dépression
j'ai mis 6 mois à vraiment accepter le terme tu vois et il a fallu que mes deux meilleurs potes qui sont psy tous les deux me regardent dans les yeux et me disent Sam ce que tu vis là ça s'appelle une dépression ok donc c'est pas grave ça va aller mais il faut que tu l'acceptes un moment tu vois et
c'était dur de retirer le masque du mec qui allait
ah,
bien
ouais complet mais ça m'a en plus ça m'a demandé parce que tu sais on a l'impression que dans ces moments-là, il y a un moment, tu claques des doigts et tu retires le masque et ça y est, il y a tout qui sort. Et... Mmh. Mais en fait, moi, c'était pas ça. C'était vraiment, tu sais, comme un escalier et il fallait que chaque marche, j'admette, oui, ok, ça va pas. Oui, ok, des fois, mon fils me gonfle. C'est des trucs que c'est coincé, quoi.
On a fait un épisode d'Histoire de mec ensemble. On a un peu parlé parce que ça a en rapport avec ça aussi.
C'est ça,
en rapport avec ce truc de il faut que t'ailles bien, il faut que t'encaisses le rugby.
C'est ça.
Tu t'en prends plein la gueule.
Mais clairement. Et tu vois, depuis j'ai arrêté le rugby, il y a peut-être un parallèle à faire. Mmh. Tu vois. Mais vraiment, ce truc d'en prendre plein la gueule et de subir sans dire quoi que ce soit, c'est dur à déconstruire. Et franchement, bah après, j'ai eu la chance de m'adresser à des psychologues qui sont très bien. Et donc bah voilà ça a pris quelques mois mais tu vois après on en a parlé ça aussi j'en ai parlé mais j'ai même été médicamenté tu vois pendant 6 mois et je pense que c'est important de le dire parce que je trouve que les mecs surtout ils ont vraiment du mal avec déjà l'idée d'accepter que bah ils peuvent prendre soin de leur santé mentale mais alors en plus prendre des antidep tu vois genre vraiment je vois souvent les mecs ils sont un peu cringe quand j'en parle de ça tu vois ils sont
c'est
un peu... ouais parce que surtout les jeunes tu vois alors qu'en plus c'est les jeunes les 25-30 ans un truc comme ça c'est les premiers consommateurs en France mais on n'en parle pas tu vois alors qu'en vrai moi je le dis c'était des antidep pendant 4-5 mois tu vois et après tu baisses la dose tu vois le temps et ça passe crème et depuis j'ai plus du tout eu besoin d'en reprendre mais je sais que ce chemin là existe et que si j'ai besoin bah c'est ok tu vois ça m'a pas rendu gogol ou débile ou tu vois comme on peut avoir peur de certains médicaments qui jouent sur le psychisme tu vois
ouais je comprends
pas du tout les gars enfin, vraiment soyez détente avec ça quoi
mais tu vois pour moi en fait un antidep c'est une béquille
ouais
c'est, en fait c'est exactement comme être capable
mais
de demander de l'aide ou être capable de te dire ok moi je vois des mecs qui se blessent parfois et en fait ils devraient avoir des béquilles en fait ils en ont rien à foutre ils marchent sur leur jambe cassée
mais essaye de marcher avec une jambe cassée tu verras que si t'as pas un bon plâtre une bonne béquille et après la jambe elle se répare et tu pourras marcher il y a pas de problème.
Comment a évolué ta relation avec ton fiston depuis justement la fin de cette période et depuis l'école je trouve ça intéressant.
Bah là, il grandit de ouf, tu vois. Là, je le vois vraiment. Et d'ailleurs, j'ai fait un mindfuck, mais total, la semaine dernière. Parce que j'ai réalisé un truc. Je dis à Léa, bébé, là, notre fils, il est plus proche de sa rentrée de 6e au collège que de sa naissance. Et genre, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais non, n'importe quoi. Et je dis, bah, calcule. Et en fait, c'est le cas, tu vois. Et là, vraiment, j'ai fait, c'était vertigineux pour moi. Je sais pas pourquoi, ça m'a.
Et donc, c'est le collège, il y a un vrai truc de, ok, bah, c'est un grand maintenant, quoi.
Ouais, tu vois, genre, vraiment, il est plus près d'être collégien que de ce petit truc que j'avais encore dans les mains, j'ai l'impression, il y a genre une semaine, tu vois. Donc, ça m'a vraiment mindfuck. Et je trouve qu'il grandit, tu vois. Et là, en plus, tu vois, ces trois premières années, il parlait pas beaucoup. Il a mis du temps à développer le langage parce qu'il était beaucoup plus moteur. Et maintenant, c'est genre vraiment, on parle H24 et c'est un petit gars qui est hyper curieux, qui est hyper intéressant. Et donc, moi, je passe mon temps à lui parler. Et du coup, c'est un peu interpellant pour les autres parce que des fois, ils ont l'impression qu'on est plus potes que papa et enfant, tu vois. Parce qu'il y a vraiment cette relation où, tu sais, moi, je suis pas autoritaire du tout. Et genre, il sait que bah, je suis là pour sa sécurité, sa santé. Donc, il y a des trucs où je suis en mode, bah non, non, ça, c'est mort. Mais à part des trucs vraiment genre, bah, tu peux pas aller courir sur l'autoroute à poil, tu vois. Je suis pas en mode fini ton assiette et tout machin. Donc, on a vraiment une relation, mais même lui avec Léa, c'est la même chose. On a vraiment une relation un peu d'égal à égal. Ce qui fait que des fois, de l'extérieur, les gens, ils sont un peu en mode, c'est chelou, tu vois. Et moi, j'adore. Et j'adore plus maintenant que j'adorais quand il était petit et qu'il avait beaucoup plus besoin d'être materné, paterné, enfin, tu vois, d'être, de prendre soin. Là, tu vois, on prend soin et tout, évidemment, mais il y a vraiment ce côté échange. Il y a la réciprocité qui est arrivée, tu vois. Et ça fait du bien de ouf, parce que pendant les premières années, tu donnes beaucoup, mais en vrai, un enfant, tu vois, il n'est pas forcément beaucoup dans l'expression de l'amour, tu vois. Et bah, quand tu donnes, c'est naturel et humain d'avoir envie de recevoir aussi. Et bah, maintenant, là...
C'était moi, dur pour toi d'avoir l'impression de moins recevoir que ce que tu donnais, parce que tu donnais beaucoup.
Bah ouais, tu donnes beaucoup. En fait, vu ce que je donnais, c'était impossible que de toute façon il y ait retour sur ça. Mais en plus de ça, bah tu sais, selon les enfants, il y en a qui sont plus ou moins tactiles, il y en a qui sont plus ou moins dans l'expression, tu vois. Et Gasp, c'était pas trop ça.
Toi, tu voulais des câlins.
Bah ouais.
Il t'en donnait pas, il était là. Bah, laisse-moi tranquille.
Ouais,
frérot.
C'est ça, tu vois. Vraiment, tu vois, genre Gaspard, il est pas câlin du tout. Et même, tu vois, moi, quand il était petit, j'étais là, je t'aime, tu vois, parce que j'avais vraiment envie de lui exprimer ça. Et c'est pas facile, tu vois, de pas avoir.
Là,
ouais,
va, mais
ouais, c'est ça.
En fait, quand c'est la base.
Ouais.
C'est-à-dire que quand tu l'as pas, effectivement, c'est bizarre, mais quand c'est la base de ta vie, en fait, ça finit par devenir
mais
tellement
tu sais,
naturel.
Des fois, maintenant, le soir, je lui dis, bon, allez, je t'aime, mon cœur. Il me dit, mais je sais, tu me le dis 1000 fois par jour. Donc, je préfère que. Et je lui ai dit une fois, je lui ai dit, je préfère te le dire 1000 fois que jamais. Et maintenant, tu vois, je suis, moi qui suis plus conscient de bah, ce que je peux m'autoriser à donner tout en gardant ma santé mentale et tout, on est vraiment dans un échange. Et lui, tu vois, vraiment, des fois, on a des discussions, mais je me tape des barres intérieures, tu vois. Vraiment, et cet échange-là, pour moi, c'est hyper bien. C'est hyper enrichissant et ça me fait de ouf plaisir. Mais il a vraiment passé un gap, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment un enfant, c'est plus un bébé, quoi.
Oui.
C'est vraiment plus un bébé. Il a ses potes, il a ses histoires à l'école et tout, tu vois. Genre, il y a des embrouilles, il y a des histoires et tout, il y a des trucs, ils montent des projets ensemble et tout. Il a un agenda de ministre, il a invité un anniversaire 2 fois par semaine, tu sais. Donc voilà, quoi, c'est parti. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il a grandi, quoi.
Comment ça s'est passé, l'idée de le mettre à l'école ? C'était un projet d'entrée ou de base ? Parce que vous avez fait de l'instruction en famille pendant...
Bah, en fait, c'était pas de l'instruction en famille parce que... Ça commence à 3 ans, l'instruction famille, tu vois. Enfin, l'instruction, elle est obligatoire à partir de 3 ans.
En tout cas, c'était votre volonté,
mais
si
voilà,
je me souviens bien.
Moi, j'avais vraiment, au début, la première année, je m'étais dit, tant que ça marche, on continue et j'aimerais bien faire l'instruction famille. Donc, c'est de rester à la maison, de faire l'instruction famille, quoi. Et puis, au fur et à mesure, bah, comme je te disais, tu vois, je commençais à tirer un peu la langue à la fin des 3 années, tu vois, de vie de Gaspard. Et bah, vu que j'avais commencé à bosser et tout, et que je m'étais dit, bah, moi, j'aimerais bien aussi développer une activité, faire autre chose, tu vois. Je me suis dit, bah, c'est complètement incompatible avec le fait que je reste comme ça. Et puis, de toute façon, je pense que si on continue comme ça, à un moment, ça va desservir, tu vois. On va tomber dans un truc où moi, je vais pas être cool. Et du coup, on s'est dit, bah, vas-y, faut qu'on trouve une alternative, quoi. Parce que bah, Léa, tu vois, on a toujours discuté de tout. Elle m'a dit, mais tu sais, toi, si tu te sens pas, de toute façon, vu que c'était toi qui t'étais proposé de faire ça, moi, je vais pas te forcer à le faire, évidemment. Et puis, de toute façon, je suis assez confiante qu'on trouvera un truc cool, quoi. Bah, en fait, c'est une galère de trouver une école. Parce que moi, j'ai certaines attentes d'une école, c'est-à-dire qu'elle partage un peu les valeurs que nous, on prône chez nous, tu vois. Donc, le respect du rythme et des besoins de l'enfant, la bienveillance, pas de punition, ce genre de choses qui paraissent aliens dans certaines écoles, tu vois. Et c'est bien dommage. Et je pense qu'un jour, on arrivera à faire changer les choses, tu vois, dans l'école publique. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, et je le raconte dans le livre, que mon objectif, c'est que l'école publique évolue pour que, en fait, on se pose même pas la question de putain, ça va être une galère de trouver une école qui correspond à nos valeurs. Qu'en fait, toutes les écoles, un jour, elles feront ça. Comme dans d'autres pays.
Bisous. Et ça commence par les profs des écoles, en fait. Je leur fais des bisous.
Bien sûr,
parce
mais des gros bisous.
Elles commencent. Je dis elles parce que c'est plutôt féminin comme. Mais effectivement, je les vois commencer à truander, entre guillemets, un peu le système et à faire en sorte de venir mettre des trucs.
Mais tellement. Et tu vois, ce que je disais, dans le bouquin, il y a tout un chapitre sur l'école où je dis, de toute façon, l'école, c'est un système d'une violence inouïe. Et les premières victimes, avant les enfants, c'est les maîtresses, les maîtres, les enseignants, les enseignantes. Et c'est vraiment... Mais parce qu'eux, ils n'ont que de l'amour à donner. C'est une vocation, tu vois, d'enseigner. Et franchement, ils sont d'une violence inouïe. Et ils sont d'une violence inouïe. Le système est d'une violence inouïe avec ces personnes. Et c'est trop dommage, quoi. Et en plus, après, du coup, les enfants aussi. Donc, du coup, on a choisi, on s'est dit, si on va le mettre dans une école privée. Il faut savoir qu'on a la chance d'habiter à la campagne. Et les écoles privées à la campagne, chez nous, vers Montpellier, sont, j'ai vérifié en discutant avec des gens vers Paris, 4 à 5 fois moins cher que sur la capitale, tu vois. Donc, il y a un peu moins un frein financier. Même s'il existe. Et du coup, on a cherché des écoles, donc inspiration un peu Montessori. Mais surtout, moi, j'avais envie de m'asseoir avec les gens et de dire, comment, expliquez-moi ce que vous faites au quotidien et on voit, tu vois. Parce que Montessori, en soi, ça peut tout vouloir dire et rien. Oui. Et donc, on a trouvé un truc vraiment bien où il y a un peu des apprentissages autonomes, il y a aussi un peu des apprentissages guidés, il y a un accès à la nature qui est quotidien, il y a de la musique, il y a de l'anglais, et il y a surtout, le jour où on est arrivé, moi ça m'a marqué, pour rencontrer la directrice de l'école, il y avait la maîtresse qui s'est avérée être la maîtresse de Gaspard ensuite, qui avait un bébé dans chaque... Enfin, un bébé, pas du tout, un enfant, tu vois, de genre 3-4 ans, dans chaque bras, un autre assis sur les genoux, et elle leur faisait des câlins parce qu'ils étaient pas bien, tu vois. Et j'étais genre, moi j'avais jamais vu des maîtres et des maîtresses s'autoriser ça, tu vois. Donc voilà, et donc on a discuté, ça s'est bien passé, et donc il est rentré à l'école. Les premières semaines, un peu galère le déposage à l'école, tu vois, mais comme beaucoup, ça c'est connu. Tu vois, genre, encore une fois, mais la chance de ouf qu'on a eue, c'est que à cette école, les parents, quand les enfants ils étaient en galère, ils pouvaient rester jusqu'à que l'enfant ça aille, tu vois. Donc moi qui en plus bossais pas, enfin en tout cas bossais quand je voulais, des fois j'arrivais à 8h45, je repartais à 9h30, 10h, tu vois. C'était ok, c'était complètement ok, et c'était et franchement, mais ça c'est une chance inouïe. Et ensuite ça a bien roulé, et là maintenant les vacances il a les boules, quoi, parce que il voit pas ses copines, ses copains, parce qu'il voit pas sa maîtresse, parce que ils ont des projets en plus, tu vois, qui durent sur le long terme. Donc du coup il est un peu en mode j'ai hâte de continuer. Là en ce moment il dessine une fresque de dragon légendaire chinois, tu vois. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un dieu ou un truc, mais hyper stylé. Et genre une fois par semaine, ils avancent un peu leur fraise, tu vois. Et la dernière fois, je lui dis, tu sais, nous, on va partir un peu plus tôt pour les vacances de février, parce que comme ça, on passe plus de temps chez mamie. Il me dit, non, c'est mort. Parce que déjà, d'une, le vendredi, il y a la boum de l'école, et le jeudi, on continue le dragon. J'ai dit, bon, ok, alors. J'ai dit, il faut qu'on en parle.
Incroyable.
Donc, ouais, c'est une chance inouïe, quoi, d'avoir ce lien-là avec l'école et l'enseignement, quoi, pour moi.
Ok. Et comment dire, ça a évolué pour toi par rapport à l'idée que tu en avais auparavant, justement, tu vois, en 2019?
Moi, j'avais vraiment hyper peur que l'école, ce soit un truc qui le casse un peu dans son naturel curieux et son naturel intéressé, tu vois. Je pense que ça peut être le cas dans certains endroits, honnêtement. Et je le vois même en parlant avec des parents sur les réseaux et tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais tu vois, comme tu dis, en loose day par les profs, parce qu'ils savent que c'est pas la voie naturelle de laisser un gosse assis 10 heures par jour sur une table, enfin sur une chaise, devant une table. En fait, c'était vraiment... J'aurais pas pu espérer mieux comme école, tu vois. Il y a toujours des trucs à redire, c'est jamais parfait, tu vois. Mais globalement, franchement, je suis hyper satisfait. Mais je pensais pas que ça aurait cet effet-là sur mon fils, tu vois. Je pensais pas que ce serait aussi bénéfique pour lui de passer ces moments-là d'enseignement et tout, et de partager avec ses copines et ses copains. Franchement, ça, je suis vraiment refait. Et c'est un poids de ouf en moi, pour moi, en charge mentale, tu vois, de pas avoir peur de ça, tu vois. De le poser à l'école et de savoir que on va s'occuper de lui, on va pas le violenter, on va être bienveillant avec lui. Franchement, de déposer tous les jours mon gosse à des gens à qui j'ai 100% confiance, c'est inestimable pour moi.
Et c'est ça qui te fait un peu peur dans le collège?
Non, mais juste à côté de l'école, il y a un collège pareil, collège de hippie, donc c'est bon.
Ok.
Non, mais après, c'est pas sûr qu'il sera là, mais j'ai pas peur du tout du collège, j'ai juste peur peut-être de... Tu sais, bah, ça, là, on rentre dans le cliché de ouf, mais vraiment, genre, moi, je pense que quand il va vraiment grandir et commencer à me tose en mode, bah, vas-y, laisse-moi, tu vois, vraiment, là, je suis grand, laisse-moi, tu vois. Genre, déjà, le jour où il va dire, bah, j'ai plus envie que tu me chantes des chansons avec ta guitare le soir pour m'endormir, tu vois, ça va être dur, mais parce que il faut que je me prépare aussi au fait qu'un jour, il aura de moins en moins besoin de moi comme ça, tu vois, il aura d'autres besoins. Mais tu vois, là, j'ai passé ce cap-là où je suis en mode, tu sais, je suis plus du tout dans ce truc de portage, machin et tout, où c'est vraiment très physique, très fusionnel. Et c'est vraiment...
C'est une bonne idée, tu vois, à un moment donné, de ne plus avoir son gamin de 15 ans contre...
Ah oui, bah, je vous le déconseille pour vos lombaires. Surtout que moi, à 15 ans, je faisais déjà 85 kilos, donc je ne sais pas qui m'aurait porté. Mais oui, c'est déconseillé. Mais tu vois, j'ai un peu passé ce cap-là du maternage très machin, très fusionnel. Là, on est vraiment dans un truc de pote à pote et tout. Mais je sais qu'à un moment... il n'aura plus envie d'être pote avec moi, tu vois.
Et puis, il faudra peut-être remettre un peu d'autorité, justement, ou en tout cas, bah, un cadre. Quoi.
Bien sûr, bah après, tu vois, moi, je pense que les deux se conjuguent bien. Mais en tout cas, là, on a une vraiment belle relation. Moi, on s'éclate et ça se passe bien, tu vois.
Et tu... ouais, c'est ça que t'appréhendes un peu, en fait, dans le fait qu'ils grandissent. C'est que finalement, ils te disent « Ok, frérot, je suis un être humain à part. » Parce que j'ai vraiment, là, tu vois, l'un des souvenirs, moi, qui m'a marqué, c'était que... t'avais en tête, en fait, que cet enfant n'était pas ton enfant, entre guillemets, mais que c'était un être humain à part entière
ouais,
en 2019.
Complètement. Oui, oui.
Ben... et c'est marrant parce que dans ce que j'entends là, il y a un truc où, en fait, ok, ce lien-là, maintenant, aujourd'hui, là, j'aimerais bien quand même qu'il soit comme je voudrais qu'il
c'est
soit.
Ça.
Quoi, tu vois.
Ben, tu sais, quand tu commences à être parent, t'as une vision des choses. Et puis après, les expériences font que ça change un petit peu. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours considéré que c'était un être humain à part entière. Et bien sûr que le jour, il me dira, dégage de ma chambre, j'ai pas envie que tu restes avec moi.
Oui, tu vas pas t'asseoir.
je vais me promener avec des potes, t'inquiète pas, je reviens, machin. C'est ok, y a pas de problème.
Tu vas pas le suivre à 100
voilà,
mètres derrière.
Voilà, c'est ça, je serai pas ce genre de daron, tu vois. Mais par contre, d'avoir passé 3 ans avec lui, ça a fait que moi, je le sens physiquement, tu vois, ce lien-là. Et c'est dur de se dire, à un moment, ça va évoluer. Un moment, on va plus parler tous les jours dans notre vie, tu vois. Un moment, on s'appellera et tu vois. C'est très loin, mais tu commences à y penser à un certain âge, tu vois. Et là, c'est le moment où je me dis, vas-y, profite à fond parce que c'est peut-être les derniers moments où il va avoir besoin que tu t'allonges avec lui tous les soirs pour s'endormir, où il va, tu vois. Et du coup, je suis plus en mode profite à fond parce que après, c'est sûr, ça va évoluer. Mais j'ai pas tant peur que ça. C'est plus en mode, j'ai pas envie d'être nostalgique après de me dire, t'as oublié, tu vois, de... Mais bon, je pense pas.
Non, mais bien joué. C'est un truc, moi, que je... Enfin, si j'ai bien un regret, tu vois, c'est vraiment d'avoir raté, entre guillemets, ces quelques années où il y avait vraiment moyen de... Enfin, en fait,
de construire.
Ouais, c'est ça. Et tes gamins, ils ont besoin de toi. Et en fait, j'étais là, non, laissez-moi tranquille, je fais mademoiselle.
Ouais, bah après, tu sais, on a tous des...
Mais ce qui est cool aussi, je trouve, c'est que... c'est pour moi, le vrai enjeu, tu vois, de ton gamin qui est en train de grandir, c'est de lui laisser la place pour venir... t'envoyer bouler en fait.
C'est ça.
Et c'est pas facile à mettre en
c'est
place.
C'est ça.
Hein.
Bah, moi, tu vois, des fois, il y a des bails, genre vraiment le truc de. Alors, tu vois, il a un bail, c'est quand il fait son goûter, tu vois, des fois on rentre de l'école, il a pas fait son goûter à l'école. Donc, je dis, vas-y, tu peux goûter en rentrant, tu vois, il est 5h, vas-y. Et il se met, il a son iPad, il se met une histoire audio, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi, et j'arrive pas à en parler avec lui parce qu'à chaque fois, il dit, j'ai pas envie de. Tu vois, laisse-moi. Il veut écouter tout seul ses histoires audio. Mais genre, je lui dis, mais tu sais, moi, je fais autre chose, j'écoute pas vraiment et tout. Il me dit, non, parce que je veux vraiment écouter tout seul. Et donc, il me dit, en plus, il se pose dans la cuisine, tu vois. Donc, je suis là en mode, frère, tu veux que je fasse quoi? Il faut que je prépare le repas, tu vois. Et donc, donc, du coup, il me dit, maintenant, il sait, tu vois, quand il veut écouter ses histoires audio, il me dit, tu peux m'amener mon iPad et le casque, s'il te plaît? Parce qu'il a vraiment, des fois, pas envie de partager un truc avec moi, tu vois. Et moi, je suis en mode, what the fuck? et petit à petit, je me dis, c'est ok, c'est normal. Moi aussi, des fois, je regarde un truc et j'ai pas envie qu'il vienne se caler à côté de moi pour regarder le truc avec moi, tu vois. Et comme tout le monde, c'est humain, tu vois. Et ça, tu vois, je commence à le vivre et je me dis, bon,
c'est
ok,
dur.
Alors adapte-toi parce que c'est ça fois 1000 dans quelques années.
Ouais, en plus, je trouve qu'il y a un truc un peu insidieux quand les gamins grandissent, c'est que je crois que c'est super dur de te rendre compte quand ça bascule, c'est-à-dire...
C'est ça, j'ai l'impression.
Il y a vraiment un moment donné où tes gamins, ils n'ont plus besoin de toi. Mm-hmm. Et je trouve que c'est super dur en tant que parent de venir dire « Ok, donc c'est ça le nouveau deal,
c'est bien,
il faut changer la façon de faire et tout, trop intéressant, je vais voir ça plutôt comme un truc cool à faire plutôt que comme « Ah, il me rejette !»
Bah ouais, c'est ça, moi c'est ce que je me dis, c'est que j'ai vraiment pas envie d'être ce gars qui s'accroche à un truc qui n'existe plus, tu vois, et qui casse les couilles à son gosse, quoi. Parce que clairement, il y a un truc... ça peut être hyper toxique, ça peut être hyper chiant, quoi, d'avoir quelqu'un qui s'accroche, qui veut te garder, tu sais, tout bébé, machin. Mmh. Au contraire, moi, je suis là en mode, mais vas-y, fonce, tu vois. Mmh. Mais juste, c'est pas parce que je suis comme ça que sur le moment, t'as pas un petit coup, tu vois, dans le ventre, en mode, ah ouais, après tout ce que j'ai fait pour toi. D'ailleurs, ça, c'est vraiment la phrase. Mais d'ailleurs, il y a un bouquin qui est super classe. Et après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est vraiment un truc, je le dis pas parce que je le pense pas vraiment, mais t'as, au fond, t'as une part de ton cœur où t'es un peu en mode, ah, tu me toses alors que moi, je viens de passer 3 ans à, et tu vois. Mais lui, il est pas responsable de ton choix de rester 3 ans.
Et j'ai puis surtout, demandé. Même d'être là.
C'est ça. Déjà, j'ai pas demandé d'être là, j'ai pas demandé que tu restes avec moi et je te demande pas de me coller jusqu'à mes 20 piges, tu vois. Donc, il y a vraiment ce bail-là. C'est un peu contradictoire, mais au fond, tu vois très bien où tu vas aller, tu vois. Ouais. Moi, j'ai aucun doute.
Le simple fait que t'en sois conscient, déjà, t'as fait une plus grosse partie du
mais
chemin.
Mais faut le dire aux gens. Ça fait un petit pic. La première fois qu'il me dit, mais tu sais, papa, je sais lire, tu peux me laisser lire Astérix tout seul? Ouais. Bah, moi, j'aimais bien ces petits moments qu'on passait ensemble, tu vois. Bah, après, tu le prends dans le temps. Tu te dis, bah, super, je vais pouvoir aller regarder ma série plutôt avec ma chérie, je vais pouvoir aller me poser. Tu vois, donc c'est.
Tu retrouves aussi quelque part voilà. ta vie d'homme.
Bah, tu retrouves, en tout cas, ouais, des trucs que, bah, qui te prennent un peu de. Ça te prend un peu de temps, les routines du soir et tout. Donc, quand ça s'écourte un peu, c'est pas mal aussi.
Et tu vois, j'ai peut-être un petit indice, c'est que s'il veut écouter ses histoires tout seul au casque, c'est peut-être parce que c'est au casque. Et que c'est quand même vachement mieux au casque.
Non, mais déjà.
Que ça sorte comme ça dans les couloirs.
Mais déjà, il est hyper. Tu vois, il est hyper dérangé par les bruits et tout. Donc, d'avoir un casque, c'est très fréquent pour lui. Mais vraiment. Il y a ça, c'est sûr, mais il y a vraiment un truc, et j'arrive pas à en parler. À chaque fois, je lui demande, je dis, pourquoi tu veux pas que j'écoute et tout? Et parce que je sais ce qu'il écoute, ces histoires. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il était en train de me ken en disant, vas-y, je vais écouter une histoire bien. Et en fait, il va sur des sites où il écoute des histoires de Barjo, tu vois, il y a pas du tout ça. C'est sur Alma Studio, tu vois, le truc tranquille avec des histoires super et tout. Et je suis en mode, bah, pourquoi? Tu vois, je comprends pas. Et lui me dit, mais je veux juste écouter moi, je veux pas que t'écoutes. Donc je dis, ah, ok, vas-y. Ouais,
c'est entre lui et lui.
Ouais,
quoi.
C'est ça, c'est ton moment, ok, bah, vas-y. Mais c'est vrai que le casque, ça aide beaucoup aussi.
C'est trop bien.
Ouais, mais c'est peut-être un futur podcasteur, tu sais.
Écoutez, n'hésitez pas.
Déjà qu'il envoie des podcasts en audio à sa mère quand elle est encore au taf, tu vois. Il fait des. Parce que sur l'iPad, je lui ai mis un contact, c'est Léa, tu vois.
Ouais.
Et du coup, je lui ai montré comment faire des vocaux. Et du coup, il est là genre « Maman, ça va? Qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Et il lui envoie...
Incroyable.
Du coup, elle joue le jeu, elle lui répond et tout. C'est beaucoup trop drôle. Quand on part en vacances aussi, on fait ça.
Oh là là.
Je fais trop rire.
Oui, ce moment où tes gamins commencent à t'envoyer des messages comme des êtres humains à part entière. Ah, quoi.
Là, ça doit être chaud, ça. Moi, les vocaux à maman, ça va. Mais moi, s'ils commencent à m'envoyer des textos et tout, je vais être là en mode bah, « Non, frère, t'as 6 ans, calme-toi. »
Ouais, tu vois, c'est marrant parce que j'ai screené des... Je screenais des messages et de temps en temps j'étais à l'étage et en fait les filles m'envoyaient papa on mange enfin tu vois avec
trop drôle.
Ou alors Kim qui était toute petite elle m'envoyait des smileys des barres de smileys de
ça.
Ouf quoi
ah mais ça
vois.
Il fait Gaspard Aléa il lui envoie des dinosaures tu sais les emojis dinosaures là il lui envoie mais tu sais des cases entières quoi
normal
il trouve ça génial
c'est de l'amour
ouais c'est ça
c'est des dinosaures
je t'envoie ce que j'aime le plus au monde
ouais clairement ok tu vois je me demandais un petit peu. Je sais pas si t'as envie d'en parler.
Bah, vas-y.
On a jamais parlé ensemble. Si, en fait, on a parlé du deuxième enfant en 2019.
Ouais.
Où t'avais déjà un peu un projet machin, tu vois.
Est-ce que j'avais déjà dit que j'en voulais pas ou pas?
Non, je crois pas.
Non. J'étais en mode j'en veux un deuxième? Non, je pense pas non plus.
Non, je crois pas, mais il y avait.
Ouais, on en a parlé vite fait, quoi. Je crois que vite fait, on s'est dit on n'en veut pas d'autres, en fait.
Ok.
Genre, je pense, deuxième année de Gaspard. On s'est dit, en fait, parce que tu sais, c'est généralement entre la deuxième, troisième année où on te dit, là, tu commences à entendre les gens, alors le deuxième et tout, tu vois. Et nous, on était en mode, non, vraiment pas. Et en fait, on s'est dit, non, vraiment pas pendant un an ou deux. Et après, vraiment, un moment, on s'est posé avec Léa et je sais plus qui, peut-être elle ou moi, je me dis, mais genre, t'en veux d'autres des enfants, tu vois. Parce que du coup, je crois que c'était vraiment purement technique. C'était en mode, si on n'en veut pas d'autres, il faut qu'on trouve une solution de contraception parce que ça nous fait chier de galérer entre différents trucs. C'était vraiment purement technique en mode relou les capotes, relou la pilule, relou le stérilet. Donc qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Moi j'ai dit, si vraiment on se dit on n'en veut pas d'autres, moi je fais une vasectomie. Inspiré par un certain influenceur vasectomie que vous écouterez, que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, t'as fait un épisode sur ta vasectomie.
Ouais. J'en ai parlé, j'en parle en fait, je trouve ça cool.
Ouais. Et donc, franchement, en premier dog en plus, je pense que si tu t'en avais pas parlé et si tu m'en avais pas parlé, je me serais pas tourné là-dessus, tu vois, vite.
Ah, moi, il n'y avait pas d'influenceur vasectomie autour de moi.
Ouais,
ça, c'est sûr
c'est
et certain
ça,
que j'ai mis
toi,
4 ans.
Ça a dû être putain de long, tu vois.
J'ai mis 4 ans avant d'accepter de me faire couper les couilles, quoi.
Bah, c'est ça. Il faut préciser aux gens quand même que c'est pas vraiment couper les couilles. Parce que
tout ça, mais
si,
en tout cas,
si vous êtes premier degré.
C'est l'image que j'en avais. En fait, ouais. Je mettrai un lien parce que j'ai aussi fait un épisode avec deux autres mecs.
C'est ça.
Où on avait trois vasectomiers. trois cobayes avec trois opérations différentes.
Ah, okay,
donc trop
okay.
Intéressant et trois ressentis de ce fait-là complètement différents. Moi, je l'ai fait en local.
Bah, j'aurais jamais pu.
Voilà, et j'ai découvert qu'en fait, il y avait d'autres mecs qui pouvaient le faire
en général,
et j'étais, ah ouais, putain, j'aurais bien aimé. En fait.
Ah ouais, mais vraiment, je sais pas comment t'as fait.
Eh bien, je ne pourrais plus jamais oublier ce moment.
Bah, je comprends. Déjà que moi, le moment où je me suis réveillé, tu vois, après l'opération, j'étais un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, j'imagine. Donc du coup, ouais, j'ai décidé, on s'est dit ça, en fait. J'ai dit, bah, c'est vraiment simple. Parce que, tu vois, ça modifie rien.
Ça veut dire que toi, dans ta vie, tu vois, moi, quand même, je l'ai fait à 40
balais. Oui, tu l'as fait, à moitié de
ta... Ouais, voilà. Et globalement, tu vois, mes filles étaient grandes, etc. Enfin, tu vois. Et je me dis, ok, ça... J'ai quand même vécu un truc, je crois pas que j'en ai parlé dans ce podcast. J'étais en couple avec une fille l'année passée, et elle n'en voulait pas non plus, tu vois. Donc, on était ok sur le sujet. Mais il y a eu... J'ai pris une claque dans la gueule, mais furtive, mais...
Elle est bien arrivée, quoi.
Vraiment. Je me souviens très bien, on était en vacances et je la regardais et je la trouvais super belle et tout. Je la trouvais super cool et je me disais putain, en fait, on pourra jamais avoir d'enfants ensemble. Et tu vois, ça a été un micro deuil qui était comment dire. Il y avait un vrai côté aussi où ok, j'ai plus envie de retourner dans les couches, envie de retourner dans la petite enfance, etc.
Les deux pensées peuvent cohabiter.
Exactement.
Tu vois.
Mais vraiment, je l'ai pris en pleine gueule. Je me suis mis à pleurer. C'est sorti tout seul. Et là, elle m'a regardé, elle a fait « Ça va ?» J'ai dit « Putain, je viens de réaliser un truc, là. » Et c'était la première fois que ça m'arrivait, quoi. Et ça m'est plus réarrivé depuis, tu vois. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, la vasectomie réglait le problème.
En fait,
au moins, ça règle le débat.
C'est un peu ton toi du passé qui avait réglé les débats de ton toi futur, tu vois. Mais en vrai, tu vois, moi, je l'ai fait. Alors après, le chirurgien qui m'a opéré m'a dit « Moi, je vous le fais... » Il était vraiment cool, tu vois. Mais en gros, il m'a un peu fait comprendre. Il m'a dit, moi, je vous le fais si vous faites une conservation de gamètes.
Ouais.
Il me l'a pas dit comme ça, mais il m'a dit, moi, je vous encourage très fortement à le faire. Et il m'a dit, moi, clairement, il y a un gars que j'ai opéré 2 ans plus tard. Il a eu envie d'avoir des gosses. Il était bien content d'avoir ça.
Ouais.
Donc, je dis, bon, ok, je comprends la logique. Ça demande à aller faire un prélèvement de sperme. Ce qui n'est pas le moment le plus fun de ta life, mais ce qui n'est pas non plus très invasif.
C'est une branlette.
Voilà, ça va. Et c'est 40 balles par an. Donc, bon. Ok, je le fais, tu vois, et je me dis, j'ai fait ce choix de la vasectomie. Si jamais, un jour dans ma vie, il y a cette envie de paternité qui revient, il y a déjà d'une cette
Tu as des petits soldats au garde-à-vous.
J'ai ça, mais il n'y a même pas que ça, tu vois. Il y a d'autres façons de trouver une figure de père et un rôle de père dans, tu vois, il y a plein d'enfants qui ont besoin de parents, que ce soit sur des courtes ou des longues périodes. Tu vois, moi, par exemple, je suis hyper touché par les gens qui sont familles d'accueil et qui accueillent des enfants qui sont en détresse et tout. Et je me dis, ok, pourquoi pas un jour, tu vois. Parce qu'en plus, il y a besoin. Donc, tu vois, j'exclus pas totalement l'idée qu'un jour, je retrouverai cette figure-là, tu vois, ce statut-là. Mais de repasser par toutes les étapes et tout machin, ça m'a, là, tu vois, vraiment, j'ai zéro envie d'être dedans, tu vois, de re-être dedans.
je vous mettrai un lien vers un épisode d'Histoire de Daronne avec une amie qui s'appelle Anne-Laure et avec qui on discute justement de la volonté limite politique, tu vois, de pas faire un deuxième enfant.
Bah, bien sûr.
Et je trouve ça hyper intéressant. Eux, pour le coup, tu vois, ils sont pas passés par la case contraception définitive, mais c'était un vrai sujet, tu vois. Leur gamin, il a 7 ans aujourd'hui et elle me raconte en long, en large et en travers pourquoi ils ont décidé, eux, de pas faire
hyper
de deuxième.
Intéressant, ouais.
Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené ?
Bah franchement, on a pas mal discuté déjà, mais c'est le problème quand on est ensemble, c'est qu'on est très bavard. Non, mais en gros, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le livre, tout ça, en un peu plus détaillé, avec aussi des exemples un peu précis de genre quand j'étais vraiment daron au foyer, le portage, le cododo, tu vois, comment on a mis en place certains trucs. Et puis après, des fois, je m'emballe un peu et la conclusion, je te laisserai la lire, ça va te plaire, sur le réarmement démographique, où je parle de l'abolition du système patriarcal capitaliste. Je me suis dit, il faut que je marque un petit point quand même à la fin.
Non, le mais point bon, levé.
Voilà, c'est pas du tout un bouquin politique, c'est vraiment un bouquin témoignage, mais je raconte aussi comment toutes ces petites expériences, ces micro-expériences de vie avec un enfant, m'ont amené à voir les choses différemment sur d'autres thématiques, tu vois. Le fait d'être un mec, le fait d'être un mari, le fait d'être un pote, le fait d'être un papa, le fait d'être un militant, tu vois. Et tout ça.
Le fait d'être un père d'un fils.
Le fait d'être. Ben ça, il y a tout un chapitre sur élever nos garçons, tu vois. Et où je raconte que, genre, moi, ma plus grande peur, c'est que mon fils, ça devienne un agresseur, tu vois. Et ça, je sais que ça avait fait vachement réagir à l'époque sur le réseau quand j'en avais parlé. Et là, j'ai pu vraiment, tu sais, me laisser, parce qu'en plus, j'ai la chance d'être édité par des gens qui m'ont dit, vas-y, fais ta vie, et nous, on te dira s'il y a des fautes d'orthographe. Donc, j'ai dit, bah, vas-y. Et donc, c'est, voilà, j'en suis très fier, en tout cas.
Bah, bravo.
Bah, merci à toi d'avoir pris le temps aussi.
Avec grand plaisir, et je vais le lire.
Bah, j'espère, je te l'ai dédicacé et tout. Hein.
Oh, bah, merci.
Enfin, je crois, attends, vérifie.
Oui.
Oui, voilà.
Merci beaucoup, Sam.
Bah, et merci à toi.
À plus.
À plus.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.